France Culture.
Esprit de justice qui continue sa série d'émissions sur les émotions professionnelles, notamment dans le cadre de l'enquête et de la justice. Et c'est pour ça que notre émission ce soir va porter sur la violence des images ou comment travailler avec des images pénibles. La profusion d'images numériques circulant sur les réseaux sociaux constitue une ressource infinie pour les chercheurs, pour les journalistes et pour les enquêteurs. Elles ont d'abord été exploitées par les services de renseignement, d'où leur dénomination d'Open Source Intelligence, dite OSINT. OSINT, l'acronyme OSINT, retenez-le bien parce qu'il en sera souvent question ce soir. Et donc, les sources ouvertes s'opposent aux sources fermées qui sont obtenues par un travail d'infiltration et de recrutement. Mais ce concept lié au renseignement, a pas tardé à sortir du renseignement. Et le travail à partir des images s'est émancipé pour constituer une nouvelle forme d'établir les faits, d'une nouvelle forme de vérité, l'enquête OSINT. Celle-ci renouvelle le travail journalistique, suscite la création de nouvelles ONG comme Bellingcat et transforme également la preuve judiciaire. Alors, Esprit de justice, on a déjà abordé cette question, ce type d'enquête. Mais on va y revenir ce soir sous un angle particulier, celui de la difficulté des personnes qui travaillent sur ces images pour les faire parler en quelque sorte, pour en sortir un récit, et qui doivent passer des journées entières à regarder des photos ou des vidéos haineuses au contenu violent ou obscène. Un tel travail finit par les obséder et peut engendrer chez elles un syndrome vicariant ou un syndrome secondaire. Comment exploiter les images qui prolifèrent aujourd'hui tout en se protégeant de leur violence? Existe-t-il des techniques pour en atténuer la brutalité? Ne faut-il pas mettre en place des dispositifs au sein des rédactions, des services d'enquête, des ONG, en vue de sauvegarder la santé mentale des gens qui travaillent sur ces images? La question est nouvelle et elle est d'autant plus urgente à traiter qu'un tel traumatisme des images concerne peut-être la société tout entière, où des images de toute nature circulent sans grand contrôle. Alors, Esprit de justice va tenter de répondre à ces questions ce soir en compagnie de Liselotte Masse. Liselotte Masse est journaliste au journal Le Monde. Elle appartient à la cellule enquête vidéo. Et elle est également présidente d'Open Facto, une association dont l'objectif est de fédérer les acteurs de la recherche en sources ouvertes et de promouvoir la scène OSINT francophone. Et pour en parler avec elle, un psychologue, Guillaume Wavelet, qui est psychologue clinicien à la Maison de Solène. La Maison de Solène, c'est celle qui s'occupe des adolescents à l'hôpital Cochin, et il est également doctorant à l'université de Paris-Nanterre.
France Culture, Esprit de justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Merci d'avoir répondu à mon invitation. Ma première question, Liselotte Masse, c'est de savoir, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est qu'une enquête OSINT?
Oui, alors une enquête OSINT, c'est une enquête qui se base sur des matériaux qui sont en source ouverte, c'est-à-dire qui sont publiquement accessibles à tous. Ça peut être principalement sur Internet, mais aussi ça peut comprendre les livres qui sont disponibles dans une bibliothèque. Et quand on parle d'enquête OSINT dans un cadre journalistique, on va principalement se concentrer sur toutes les informations, les documents, les photos, les vidéos qui circulent librement sur Internet et qui deviennent un peu la base de nos investigations.
C'est-à-dire que tout le monde peut être enquêteur aujourd'hui?
C'est un peu le principe, effectivement. Il y a énormément de formations ou de tutoriels en ligne qui sont eux aussi gratuits et qui permettent d'acquérir une méthodologie et une rigueur qui permettent ensuite d'ingérer ces documents pour les transformer en enquête. Mais bien évidemment, il faut avoir acquis ces compétences, cette méthodologie pour faire ça de façon rigoureuse.
Alors, de façon rigoureuse, professionnelle, il faut transformer les images sur une sorte de produit brut qu'il vous faut raffiner pour les transformer en quoi? En récit, en information, en élément qui contribue à un combat politique éventuellement. C'est pas le cas du Monde, mais c'est le cas d'autres ONG, par exemple.
Oui, effectivement. Alors, en ce qui nous concerne au Monde et à la cellule enquête vidéo, notre objectif, c'est de révéler des nouvelles informations ou d'apporter un éclairage sur une thématique d'actualité, un moment d'actualité compliqué. Et en fait, notre travail principal va constituer à la fois faire une veille, c'est-à-dire observer ce qui circule sur Internet pour essayer d'en extraire les choses intéressantes, et ensuite prendre ces matériaux, et notamment ces matériaux visuels, pour les authentifier, c'est-à-dire les placer dans le temps, dans l'espace, savoir exactement qu'est-ce qu'ils racontent, où est-ce que ces images ont été filmées, par exemple, qui sont les personnes présentes sur ces images, et ensuite pouvoir extraire de ces matériaux bruts de nouvelles informations qui vont nourrir nos investigations.
Nourrir vos investigations, nourrir des enquêtes aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, une enquête très célèbre, quoi, célèbre dans le milieu, Anatomy of a Killing, qui a été fait par la BBC.
Oui, effectivement, Anatomy of a Killing, c'est donc un documentaire de la BBC qui enquête sur une vidéo qui est apparue en ligne, je crois, en 2018, et qui montrait des soldats commettre une exaction extrajudiciaire envers des femmes et des enfants dans
une
zone rurale,
en fait,
voilà,
oui.
Pour les exécuter. Donc la vidéo était assez violente et autour d'elle, il y avait beaucoup de mystères. On ne savait pas exactement qui étaient ces soldats, dans quel pays même elle avait été filmée. Et donc les enquêteurs de la BBC ont réussi, grâce à une série d'indices visuels présents dans la vidéo, c'est-à-dire la disposition des bâtiments, le profil montagneux, à retrouver le lieu précis au mètre près où cette vidéo avait été filmée. Ils ont aussi pu identifier, grâce notamment aux uniformes et aux armes que portaient les soldats, qui étaient les soldats impliqués.
Avec une arme, par exemple, pour Bellingcat, c'est extraordinaire les enquêtes qu'ils font. Avec une arme, ils peuvent arriver à dire, quand ils arrivent à avoir le numéro, d'où elle vient, quand est-ce qu'elle a été achetée, par où elle est transitée, Lisa Thomas.
Oui, effectivement, il y a au sein de la communauté OSINT plein de spécialistes de différentes niches. Et donc, il y a des personnes qui vont, par exemple, être spécialistes de l'identification des armes et qui vont pouvoir dire, voilà, cette Kalachnikov, c'est pas n'importe quelle Kalachnikov, c'est tel modèle, fabriqué en telle année, dans tel pays, qui est principalement utilisé par telle armée. Et ils vont pouvoir tirer de cet indice visuel présent à l'image tout un tas d'informations que le commun des mortels ne pourrait pas forcément voir du premier regard.
Alors, les auditeurs peuvent tout à fait se reporter sur Anatomy of a Killing, c'est très intéressant, parce que c'est ça aussi, on peut partager cette expérience, et ils vont voir comment, par le profil montagneux, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver au mètre près où s'est passée la scène, dans quelle partie de l'Ouganda.
C'était au Cameroun,
au Cameroun,
pour être plus précise, oui. Et donc, effectivement, ils ont pu retrouver le lieu, ils ont aussi pu retrouver quand cette vidéo a été prise, puisque la disposition des bâtiments a changé au fil du temps. Donc grâce à des images satellites avec lesquelles ils ont comparé cette vidéo, ils ont pu déterminer un laps de temps. Et aussi grâce à l'ombre qui était projetée par les protagonistes, notamment par les soldats, ils ont pu déterminer le moment de l'année à laquelle cette vidéo a été prise. Ce qui a donné lieu ensuite à un procès au Cameroun, puisque les soldats en question ont été poursuivis en justice. Notamment grâce à cette enquête de la BBC qui a pu les identifier.
Alors on va revenir sur ces méthodes d'enquête, mais Guillaume Wavelet, ça veut dire que, en quelque sorte, le téléspectateur, l'internaute, nos auditeurs qui vont se précipiter sur Anatomy of a Killing, vont assister à une exécution. Ils vont devenir les témoins d'une exaction. Alors là, je ne sais pas si on voit jusqu'au bout Anatomy of a Killing.
Non, ils floutent, ils coupent la vidéo au moment les plus violents. Mais bien évidemment, le documentaire en soi reste difficile à regarder puisque le sujet en soi est assez difficile.
Et alors, il est difficile à regarder. Moi, quand j'ai regardé Guillaume Wavelet, il y a une sorte de jeu d'identification. Si on regarde ces femmes et ces enfants qui sont des civils, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, mais a priori, une femme, c'est pas, comment dirais-je, elle participe pas à un groupuscule armé et on sait qu'elles vont être exécutées. Ça soulève des émotions, même à distance. On peut pas regarder ça impunément, Guillaume Wavelet.
Effectivement, le fait d'être confronté à de telles images, quand bien même on peut avoir l'impression d'être protégé par son écran et de vivre ça à distance, on est néanmoins dans un lien empathique avec la personne qu'on voit souffrir, même si on ne la connaît pas, même si elle n'est pas en train de s'adresser à nous et de nous raconter directement son récit. Ce récit, malgré tout, nous touche et on se représente la scène dans notre tête. Nous-mêmes, on produit des images. Il n'y a pas simplement les images que l'on voit sur l'écran, mais il y a aussi, surtout, les images mentales que l'on va se raconter à soi.
C'est très important ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'il faut prendre conscience que les images nous parlent, elles déclenchent des émotions, une identification, on se transporte aussi, mais nous produisons aussi des images pour les compléter en quelque sorte, Guillaume Wavelet.
Tout à fait, en effet. Et ce phénomène-là, il est vraiment à double tranchant, parce que d'un côté, ces images qu'on se crée ou qui nous viennent de ce qu'on regarde, peuvent être à la fois très effractantes, très traumatogènes.
Effractantes, c'est-à-dire, ou traumatogènes,
oui, il faut employer mon jargon de psy. Effractantes dans le sens où mon appareil psychique peut se sentir débordé parce que je suis en train de regarder, par l'intensité de l'image que j'ai sous les yeux. Ça va vraiment se jouer au niveau de mes perceptions sensorielles. Il y a un moment où ma vision, mais aussi mon audition, est complètement dépassée par l'intensité de ce que je suis en train de voir et par le sens de ce que je suis en train de voir, qui me confronte à la transgression de tabous, à la mort, à la question de la cruauté humaine, et tout ça va finalement...
Ça heurte mes valeurs, ça heurte mes sentiments moraux.
Et ça va jusqu'à heurter ma capacité à trouver du sens et à représenter ce qui se passe. Ça touche à quelque chose qui est aussi un peu de l'ordre de l'impensable. Et en même temps, c'est aussi à partir de ces images-là, grâce à la contextualisation, grâce aussi au travail des journalistes qui vont travailler, comme vous le disiez, ces images, et pas nous les livrer de manière brute, elles vont aussi être support de récit. Elles vont aussi servir à dénoncer quelque chose, à avoir un sens.
Alors là, c'est votre travail, Liselotte Mas. Vous travaillez à construire un récit ou une information. Pas forcément un récit. C'est-à-dire qu'il faut identifier les gens, il faut identifier le lieu. Comment vous faites ?
Alors, on a tout un portefeuille de techniques pour vérifier, authentifier ces images. La première et celle qui est peut-être la plus connue, c'est un concept qui s'appelle la géolocalisation, c'est-à-dire qu'on va, comme je l'évoquais brièvement sur le cas de la BBC, on va par exemple scruter attentivement une image, une vidéo, essayer d'en repérer, de repérer à l'intérieur toute une série d'indices. Ils peuvent être de l'ordre de l'urbanisme, de la végétation, du climat, etc. Et on va essayer de comparer ça avec ce qu'on appelle des images de référence, c'est-à-dire soit des images satellites, soit des photos qu'on a par ailleurs d'un lieu précis, pour essayer de trouver un match parfait entre ce qu'on voit dans la vidéo qui nous intéresse et le monde réel, le monde géographique, et donc ensuite pouvoir placer géographiquement et assez précisément cette vidéo dans l'espace.
Mais alors, je crois, vous avez travaillé récemment sur une exécution extrajudiciaire, sur un assassinat, quoi.
Oui, en Syrie. Ouais.
En Syrie.
Ouais.
En Syrie, après la libération, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le contexte ?
Oui, effectivement, donc en novembre-décembre 2024, le groupe HTC a conquis le territoire syrien et a entraîné la chute du dictateur Bachar al-Assad. Et donc, dans le mouvement de cette conquête, il y a eu assez peu de combats, mais ont émergé plusieurs vidéos, et notamment une qui semblait montrer, à premier abord, des membres ou des alliés de ce groupe en train d'exécuter deux personnes, donc à l'arme à feu. Et c'était intéressant d'enquêter sur ces images, puisque HTC, c'est un groupe qui a une réputation assez violente, qui était auparavant allié d'Al-Qaïda, donc on se demandait un peu quel était le degré de violence auquel était prêt à jusqu'où était prêt à aller ce groupe pour reconquérir le pouvoir. Et donc dans cette vidéo, on a pu identifier tous ces indices visuels et la placer dans le temps et dans l'espace pour l'authentifier et montrer qu'effectivement il y avait bien eu une exécution dans le cadre de cette conquête.
Est-ce que ça vous a dit, ou est-ce que vous avez pu trouver pourquoi, le pourquoi du camp ? Pourquoi ils les ont exécutés ? Est-ce qu'ils exécutaient tout le monde ? Quel est le contenu informationnel de cette exécution ?
Le contenu, c'est que la vidéo en soi n'est par exemple pas une vidéo qui date d'il y a plus de 6 ans, qui est une vieille vidéo recyclée, ce qui arrive beaucoup sur les réseaux sociaux. On a pu démontrer qu'effectivement, il y a bien eu une exécution à ce moment-là, à cet endroit-là. Ensuite, on n'a malheureusement pas pu aller au bout de l'explication de pourquoi ces deux hommes avaient été exécutés. Les indices qu'on a, c'est les paroles qui sont prononcées par les personnes qui les exécutent dans la vidéo même et qui disent que ce sont deux personnes qui se sont obstinées à ne pas se rendre au moment des combats et donc que ça justifiait leur exécution.
Il y a quelque chose, Guillaume Wavelet, qui est pénible quand on regarde des images d'atrocité. C'est d'abord c'est choquant. On en a parlé, vous en avez parlé. On s'identifie, l'empathie, etc. Et puis ce sentiment d'impuissance qu'éprouve le regardeur, celui qui les regarde, l'internaute, son impuissance devant quelque chose d'abject, de scandaleux. Je pense à ces femmes qui vont se faire exécuter, mais il y en a beaucoup d'autres en ex-Yougoslavie. Bon, et ça aussi, ça pèse. Sur le psyché.
Effectivement, ça participe à ce qui peut faire trauma, ce qui peut être traumatogène dans ce genre d'image, la position de passivité extrême dans laquelle ça nous met. Et effectivement,
qui est une caractéristique de la victime, la passivité.
Tout à fait. De se retrouver dans une situation où on perd complètement ses moyens d'action. Mais après, il peut y avoir également tout un panel de réactions émotives face à ce genre d'image. Ça peut être aussi bien du côté de la passivité, voire même parfois aussi à l'inverse du côté de la complicité. On se retrouve spectateur d'une image qui en plus parfois a été produite par les tortionnaires eux-mêmes. Et qu'est-ce qui nous autorise à pouvoir les regarder? Comment est-ce que on fait le distinguo je suis du côté de la victime ou je suis aussi finalement complice de cette violence que...
Vous posez bien la question, qu'est-ce qui nous autorise à les regarder? Alors vous, Liselotte Masque, ce qui vous autorise à les regarder, c'est votre métier. Vous êtes payé pour ça. Il y a une finalité. C'est la même chose d'ailleurs dans une ONG. Quand il y a des volontaires dans une ONG, ils vont regarder des choses horribles. Mais c'est pour la justice. Vous, c'est pour l'information qui est aussi essentielle. Est-ce que ça protège ?
Oui, je pense que ça protège énormément parce qu'on a non seulement ce statut professionnel et on se met aussi dans un rôle professionnel quand on regarde ces images. On va pas du tout les... Enfin, moi, je ressens pas du tout de sentiment de passivité vis-à-vis de ces images.
Non,
je les télécharge, je les contrôle, je les scrute et voilà, je suis très active dans mon rapport à elles. Et par ailleurs, on a aussi construit quand même toute une méthodologie pour comment on va regarder ces images, comment on va les analyser. Et tout ça, bien évidemment, ça nous protège.
Dans un but professionnel, comment on va les certifier, comment on va les valider.
Exactement. Et on va aussi mettre en place une forme de compartimentalisation. On va mettre en place des compartiments et compartimenter ces images. On va les catégoriser, on va les lister. Et tout ça, ça aide bien évidemment à notre travail de documentation, mais aussi d'instaurer une forme de distance vis-à-vis de ces images.
Et distance que n'aura pas un internaute, Guillaume Wavelet, que n'aura pas l'internaute qui peut tomber par hasard. Alors ça revient souvent, cette idée de l'imprévu. On est en train de chercher une place de spectacle ou je sais pas quoi, où on se promène sur Internet le soir et on tombe sur une image de cette nature terrible et qui vous saisit, qui vous fascine peut-être un peu, Guillaume Wavelet.
Effectivement, l'élément de surprise et de non-préparation est aussi quelque chose qui peut être traumatogène et qui peut être difficile. Le fait de ne pas s'attendre à être confronté à cette violence-là et aussi le fait de la recevoir dans son intimité. Encore plus aujourd'hui avec nos téléphones portables, avec l'accès à Internet partout, on peut être dans son lit en train de scroller et puis soudainement, dans notre espace intime, dans notre espèce de sécurité et de confort, là survient cette image et avec cet effet de surprise, ça peut potentialiser les effets difficiles.
Et du coup, ça devient une sorte de viol de l'intimité dans lequel on est complice. On n'aurait pas dû faire ça, mais et avec ce sur quoi insistent tous les manuels des professionnels en disant attention, des images, quand vous voyez des images, ça peut rester toute la vie. Alors vous préparez un peu à regarder ces images, vous professionnellement, au Monde ou dans les équipes d'enquête aux INT, Liselotte Masque.
Oui, bien sûr, et on a même, je pense, ce qu'on pourrait appeler des protocoles pour regarder ces images, c'est-à-dire que typiquement, dans un contexte où on travaille en équipe, où on s'échange des liens, des vidéos, etc., on va systématiquement mettre un avertissement pour dire, voilà, je t'envoie cette vidéo à tel ou tel collègue, attention, c'est violent, voilà, prends un moment pour te préparer avant de l'ouvrir et de la regarder. De la même manière, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux pour chercher ces images, on va systématiquement désactiver la lecture automatique des vidéos sur les réseaux sociaux, et ça je pense que c'est un conseil que les gens qui nous écoutent peuvent prendre. C'est vrai que quand on scrolle sur les réseaux sociaux, par défaut, les vidéos s'ouvrent toutes seules et s'allument toutes seules. C'est très important pour moi de d'abord lire la légende qui l'accompagne et ensuite de cliquer sur play si on a envie de la regarder. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup au quotidien, de la même façon que de désactiver le son de la vidéo lors de la première lecture. Ça aussi, c'est important parce qu'on, voilà, c'est souvent
le son
qui
peut être aussi traumatisant, voire plus traumatisant que l'image.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on discute entre nous, entre enquêteurs. C'est souvent, voilà, le son qui peut un peu nous rester en mémoire après une enquête ou pendant une enquête, ce qui peut être un peu contre-intuitif, mais qui s'avère vrai pour la plupart des gens.
Alors, on parle de son. On va écouter un son qui va nous réconcilier avec l'existence.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui réfléchit ce soir sur les émotions des enquêteurs, des journalistes, de tous les gens qui travaillent avec des images violentes, notamment dans le cadre des enquêtes OSINT, c'est-à-dire avec toutes les images disponibles sur Internet, en compagnie d'une journaliste qui fait ça toute la journée, Liselotte Mas du journal Le Monde, et d'un psychologue, Guillaume Wavelet. Guillaume Wavelet qui a choisi de nous faire entendre cet air Mogoya par Oumu Sangaré. Pourquoi ce choix?
Justement parce que Mogoya, c'est un terme qui vient des langues mandingues, qui n'a pas de traduction directe en français, mais qu'on peut définir comme le sentiment d'être un homme bon en ayant pleinement conscience d'appartenir à la communauté humaine. Et je pense que les effets à long terme des images de violence viennent justement attaquer ça. Un des symptômes qu'on repère dans ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, donc le fait de développer soi-même des symptômes traumatiques quand on travaille avec des personnes traumatisées ou dans le cas des journalistes avec des images de violence sur le long terme, avec un effet vraiment cumulatif, c'est en partie de perdre ce sentiment de pouvoir être un homme bon dans une humanité commune, et au contraire de se sentir impuissant, se sentir perdre foi en l'humanité en quelque sorte, avoir vraiment une altération très profonde de la vision de soi-même et de la vision du monde, et de sombrer dans une espèce de cynisme aussi où on n'arrive plus à voir là où il y a de l'humanité.
Alors c'est difficile de toujours croire en l'homme bon dans une humanité commune, Liselotte Mas, quand on fait des travaux d'enquête sur des crimes de masse, des atrocités toute la journée.
Effectivement, oui.
Souscrivez.
Je souscris complètement à ce constat. Effectivement, c'est en tout cas on voit dans toute sa cruauté une partie de la nature humaine aussi. Voilà.
Et alors, vous faites ça depuis des années, donc, et vous avez même vous présidez une association qui forme pour ces pour ces travailleurs d'un type nouveau. C'est très nouveau tout ça, Liselotte Mas. L'enquête aux INT, ça c'est né avec plutôt avec l'affaire syrienne, non?
Oui, alors c'est un peu difficile de dater précisément cette méthodologie, mais je pense qu'une date clé, c'est l'année 2014, c'est l'année où naît l'ONG d'investigation qui s'appelle Bellingcat et qui fait vraiment référence dans notre milieu de l'enquête aux INT, disons plus journalistique. Et tout ça s'inscrit dans un contexte des printemps arabes et aussi de l'émergence des réseaux sociaux.
Bien sûr.
Le réflexe que prennent les gens de filmer les choses quand elles se produisent, et notamment les violences policières, les exactions, les crimes, les bombardements. Et tout ça devient un matériau très utile pour les journalistes qui n'ont plus accès à ces terrains parce que c'est trop dangereux, parce que les accès sont restreints. Et donc, ces vidéos permettent de couvrir des zones inaccessible par ailleurs aux journalistes.
Mais alors donc, parlez-nous un peu de ces émotions que vous ressentez, que vous analysez, dont vous cherchez à protéger vos collègues aussi, Liselotte Mas, qui résultent du visionnage de ces horreurs toute la journée.
Bah les émotions, elles peuvent être assez variées, puis je pense qu'elles dépendent aussi beaucoup de chaque individu
oui,
et de chaque
beaucoup.
Journaliste qui est confronté à ces images. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de mes collègues et de mes confrères avant de venir à cette émission, et voilà, ça peut vraiment varier. Ça dépend aussi beaucoup des sujets, des zones qu'on traite, de la connaissance qu'on a déjà préalable de telle ou telle zone de conflit ou des éventuelles attaches qu'on peut
oui,
avoir.
Oui, c'est ça. Quand on a une attache avec, on parle arabe ou on est issu de cette région, on veut avoir un investissement et on va être plus affecté par ces images.
Probablement, oui. Je pense que c'est plus difficile pour une personne, par exemple d'origine syrienne, de travailler sur cette vidéo d'exécution en Syrie dont on parlait tout à l'heure, que pour moi. Qui ne parle pas arabe, ne comprend pas immédiatement les propos qui sont tenus dans cette vidéo. J'ai besoin de faire recours à un traducteur. Voilà, donc il y a plein de moments qui délaient un peu l'immédiate compréhension de ce qui se passe et qui me protègent dans un sens.
Mais alors, les traducteurs, je crois que c'est ce sujet de votre thèse, Guillaume Wavelet, sur justement les dilemmes psychologiques des traducteurs. C'est à ce moment-là sur le traducteur que ça repose, ce traumatisme vicariant.
Effectivement, moi je travaille beaucoup avec des interprètes, des traducteurs, et on retrouve cette question de la passivité ou de l'activité. Comme on le disait tout à l'heure, souvent ce qui peut être difficile quand on travaille avec de la violence, que ce soit des images, mais aussi pour des interprètes qui travaillent par exemple à l'OFPRA, pendant des auditions autour de l'asile, c'est de pas pouvoir participer directement à l'interaction. Alors que, par exemple, quand moi je suis thérapeute, la violence du patient, évidemment, je la ressens avec mon empathie et j'ai aussi beaucoup d'émotions.
Vous êtes aussi capable, parce que vous êtes psychologue, d'analyser le contre-transfert.
Et effectivement, d'une part, j'ai été formé pour analyser ce qui se passe en moi et utiliser ça comme une source pour mieux comprendre le patient. Et puis surtout, je co-construis quelque chose avec lui. C'est ensemble qu'on est en train d'analyser ce qui s'est passé, de mettre du sens dessus, alors que la position de l'interprète, par exemple, qui lui ne décide pas des questions, ne décide pas de où la conversation peut aller, ça peut réactiver un peu ce sentiment de passivité et faire qu'il va subir encore plus en pleine face cette violence qui le traverse, puisqu'il la rend partageable pour nous, mais sur laquelle il n'a pas prise.
C'est ça, alors vous êtes plus distante et vous construisez, vous dialoguez avec les images en quelque sorte, Liselotte Mas, quand vous construisez une petite vidéo de quelques minutes pour les lecteurs du Monde.
Oui, bien sûr, moi j'ai vraiment l'impression d'interagir avec ces images,
oui.
De résoudre un mystère, en fait, de résoudre un peu le mystère qu'elles renferment, d'aussi pouvoir, si elles renferment une sorte de preuve d'un phénomène méconnu, de pouvoir les porter à la connaissance du monde et du public. Donc je pense que je ne subis pas ce phénomène de la passivité de la même manière que peuvent le subir les interprètes.
Mais par contre, vous pouvez éprouver un sentiment de fatigue, j'imagine, voir des images quand vous cherchez à reconstituer un type d'exaction. C'est quand même, vous voyez, c'est comment est-ce qu'on gère cette répétition, j'allais dire ce gavage d'images horribles, Liselotte Mas?
Je pense qu'on le gère en donnant du sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire que quand on est journaliste, souvent, et d'autant plus quand on est journaliste d'investigation, on se sent un peu investi d'une mission qui est d'informer le public, de révéler des nouvelles informations méconnues à ce public. Et donc, en donnant du sens à ces images, on donne aussi du sens à notre métier et à notre activité. Et donc, pour moi, ça, voilà, ça rend ce travail important, nécessaire. Et donc, ça vaut la peine de regarder ces images, puisqu'il y a un but...
Est-ce que vous avez éprouvé ce qui est décrit par un certain nombre de symptômes de ce traumatisme secondaire, une sorte d'isolement, que lorsque vous regardez beaucoup d'images, que vous êtes dans cet univers de l'extrême violence, ça vous isole un peu des autres, dans votre entourage par exemple?
Alors, je pense que ce phénomène, ça a pu m'arriver effectivement, et ça concerne principalement mon cercle personnel, on va dire, puisque voilà, autour de moi, mes proches ne font pas le même métier que moi, ne sont pas confrontés à ces images violentes et peuvent être un peu parfois déconcertés par mon métier ou ce que je fais au quotidien. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle l'association Open Facto est née, pourquoi les équipes OSINT se constituent
pour se
en
former,
France.
Et se
c'est pour
soutenir.
Qu'on soit ensemble. Et c'est très important pour nous de travailler en équipe, de pouvoir échanger sur nos pratiques professionnelles, débriefer ensemble quand il y a eu un sujet particulièrement difficile ou particulièrement complexe à résoudre. Et donc c'est vrai que assez naturellement, il y a des groupes qui se constituent, des réseaux qui se constituent, pas nécessairement de premier abord pour parler de ça, mais in fine, on finit souvent par parler de ça autour d'un verre ou en dehors du travail.
Alors, c'est donc ce travail du groupe partagé. Ça vous surprend pas, vous, ce sentiment de solitude qu'on peut éprouver quand on est trop dans la matière, une matière violente?
Bah, écoutez, il y a énormément d'écho avec la manière dont nous aussi, en tant que psychologue, on va gérer cette question des images violentes. Alors pas forcément qu'on regarde sur un écran, mais qui nous sont transmises par les patients et par les récits des patients, puisque on peut aussi effectivement ressentir cette solitude et ce sentiment d'être coupé du sens et de coupé de la réalité quotidienne et d'avoir un peu ce sentiment d'irréalité aussi quand on est avec nos proches ou qu'on est dans une situation banale. Et finalement, les stratégies qu'on va mettre en place sont, je pense, aussi à peu près les mêmes que celles des journalistes. Et on va vraiment essayer de travailler à trois niveaux, en fait. De soi avec soi-même, en ayant vraiment souci de mettre en place cette réflexivité, de prendre le temps de décrire ce qu'on ressent, d'observer ce qu'on ressent, de pas avoir peur de mettre des mots sur ses émotions. On peut spontanément penser qu'il vaut mieux tout de suite penser à autre chose, mais en fait, non. Prendre un temps après pour analyser ce qui s'est passé, c'est très important. Le deuxième élément, c'est vraiment soit avec les autres, comme Lislotte Mass le disait, pouvoir partager avec des collègues, que ce soit dans un cadre informel ou dans des cadres vraiment pensés pour ça, comme des espèces de supervision ou d'intervision, des groupes d'analyse de pratique. Et puis le dernier niveau, c'est vraiment soit pour les autres, cette fois la question de l'engagement social, du sens qu'on donne à son travail, du sens qu'on donne à sa vocation.
On retrouve ça dans le cas des policiers ou dans le cas des juges, c'est la même chose. C'est-à-dire que les policiers nous expliquaient à ce micro, ils disent il faut accepter ses émotions, il faut les partager. Or, dans une BAC, de nuit, on pleure pas. On voit des choses horribles, mais on pleure pas. C'est pas permis. Alors que ça ferait peut-être du bien, Lislotte Mass, non ?
Bien sûr, et je pense que ce que décrit le policier que vous avez interviewé, on le retrouve aussi dans le journalisme. Il existe encore des personnes peut-être un peu plus âgées ou moins sensibilisées à la question de la violence des images qui vont avoir cette posture presque un peu macho de dire il y a pas de place pour ces émotions et puis j'ai vu tellement pire, ça c'est rien. Ce genre de réflexion, j'ai pu les entendre au début de ma carrière et je pense qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle génération et aussi cette communauté qui se crée et ces discussions qui ont lieu entre nous, je trouve que ça devient un peu maintenant de la vieille époque et j'espère que la génération qui arrive aujourd'hui dans le milieu du journalisme pourra parler vraiment librement de tout ça, puisque ça aide et c'est tellement contre-productif d'imposer ces tabous.
Mais pour en parler, il faut avoir les mots, il faut avoir les concepts. Pour le dire de manière un peu pédante, il y a une nouvelle, une nouvelle épistémée de ces émotions, Guillaume Wavelet. Ça me frappe beaucoup dans tous les milieux, c'est-à-dire être capable de mettre des nouveaux noms, ne serait-ce que le syndrome vicariant, le partage, le travailler avec ses émotions. Ça fait partie d'une génération, peut-être.
Effectivement, et ce que sur quoi j'avais envie de rebondir aussi en écoutant, c'est que, et à l'inverse, ne pas ressentir ressentir d'émotions, ça serait presque
problématique.
Un signe plus inquiétant que au contraire, et qu'en ressentir, puisque ça peut être carrément un des symptômes un peu préoccupants de perdre la capacité à éprouver des émotions et à pouvoir les nommer. Quant à cet enjeu, effectivement, en partie générationnel, c'est vrai, d'un nouveau souci pour nommer, inventer des nouveaux concepts et s'autoriser différemment à parler de ce qu'on ressent. Je pense qu'effectivement, c'est extrêmement salutaire. Mais si on voulait un peu faire l'avocat du diable, peut-être qu'on pourrait dire aussi qu'il ne faudrait pas prendre le risque de tout pathologiser non plus. Parce que le concept de traumatisme vicariant, par exemple, est vraiment un concept de psychiatrie, de psychopathologie, avec des définitions extrêmement précises qui doit être distinguées du fait de ressentir des émotions quand on est face à des images de violence, qui est tout à fait normal.
Parce que ce que décrivent les manuels de psychiatrie, c'est que il se développe et il peut exploser dans un burn-out sans prévenir. C'est-à-dire, on se croit plus fort que les images, on se croit plus fort que les autres, que les collègues, et puis tout d'un coup, paf. Et ça, vous en voyez, j'imagine, dans votre association, des gens pour qui ça a été véritablement problématique, Liselotte Masse.
Alors, j'ai pas vu, à titre personnel, un vrai moment de bascule complète de tout a l'air d'aller bien et tout d'un coup on bascule dans un burn-out. Mais ceci dit, oui, j'ai vu des moments compliqués pour certaines personnes qui peuvent être étroitement liées à un sujet particulièrement difficile ou à une période d'actualité particulièrement difficile. Il y a eu, notamment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, un moment où on a été tout d'un coup plongé dans un flux d'images extrêmement violentes toute la journée. Bon voilà, ça c'était des moments difficiles.
Et on pense notamment à une scène de torture de soldats russes par les Ukrainiens, en l'occurrence.
Oui, ça c'est une vidéo qui avait beaucoup circulé à l'époque, sur laquelle avait travaillé un de mes collègues, Arthur Carpentier, à la cellule enquête vidéo du Monde. Et voilà, ça c'est des cas de vidéos qui circulaient par dizaines, je pense, et abondamment sur les réseaux sociaux, qu'il a fallu analyser, authentifier. Et je pense que ça, c'est des contenus qui peuvent être assez difficiles à appréhender de prime abord quand on n'est pas habitué et qu'on n'a pas les outils pour se préparer à les visionner, se préparer à enquêter dessus. Donc c'est vrai aussi que pour les journalistes débutants ou les gens qui arrivent en stage dans des services d'enquête aux INT comme ça, je pense qu'il y a vraiment un devoir de pédagogie de la part des plus anciens ou de la supervision de préparer ces jeunes à être confrontés à ces contenus-là.
Mais Guillaume Wavelet, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a une nouvelle idée qui s'installe, sans aller jusqu'au syndrome vicariant? Je partage absolument votre sentiment, il ne faut pas tout mélanger. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une sorte d'hygiène mentale au travail, une hygiène, c'est-à-dire que de la même manière qu'on prend des précautions physiques, encore plus après le Covid, il faut prendre des précautions mentales pour préparer, ça fait partie désormais de l'organisation du travail, Guillaume Wavelet.
Oui, effectivement, je pense que de manière générale, dans la société, il y a une évolution qui fait qu'on est beaucoup plus attentif aux enjeux de santé mentale et que dans les milieux professionnels, il y a de plus en plus la reconnaissance des risques en santé mentale comme faisant partie des risques du travail. Et je pense que c'est aussi à la fois une réflexion qu'on peut mener tous et toutes de manière horizontale avec soi-même et avec ses collègues, mais aussi qui engage la responsabilité des organismes, des employeurs et in fine aussi de l'État.
C'est ça. Ce qui est un peu un motif aussi pour Open Facto, c'est-à-dire cette idée qu'il faut installer, il faut responsabiliser les ONG, les dirigeants, surtout ceux qui emploient des bénévoles aussi. Hein, c'est des problématiques particulières, Liselotte Masse.
Oui, effectivement, et je pense que le rôle des différentes ONG, Open Facto en est une parmi tant, notamment Bellingcat ou d'autres. L'idée, c'est pas nécessairement d'aller s'adresser directement aux équipes encadrantes de ces médias ou de ces ONG, mais vraiment d'imprégner tous les praticiens de bonnes méthodes et de bonnes pratiques et de bons réflexes pour qu'ensuite ces bonnes méthodes puissent circuler, être plus largement connues, et qu'ainsi les personnes puissent mieux travailler, en fait.
C'est ça. Dans vous m'avez fourni pour préparer l'émission, on voit à quel point les ONG, il y a quelque chose d'horizontal. Les ONG et d'international, américaines, Bellingcat, vont mettre à disposition beaucoup, beaucoup de techniques très intéressantes, très précises, pour se protéger et protéger les autres, Liselotte Masse.
Oui, bien sûr, et Bellingcat, en fait, s'appuie très largement sur un vaste réseau de bénévoles, d'internautes qui se passionnent pour ces techniques d'enquête. Et donc, l'idée de Bellingcat, c'est de produire des guides assez précis sur comment appréhender ces images, comment s'en protéger. J'ai mentionné quelques exemples un peu plus tôt, couper le son, désactiver la lecture automatique sur les réseaux sociaux. On peut
ombrer l'image,
passer l'image en noir et blanc, ça aide beaucoup certaines personnes. Masquer la partie la plus violente de l'image, par exemple avec sa main devant l'écran quand on la regarde répétitivement. Tout ça, c'est des choses qui ont été listées et qui, je pense, proviennent aussi de beaucoup de retours d'expérience de ces bénévoles et qui sont ensuite remises publiquement à disposition de tous, puisque on travaille sur la base de documents en source ouverte, mais on est aussi dans une démarche de transparence et de partage. Et donc, on ne va pas forcément garder ces apprentissages que pour nous. L'idée, c'est vraiment que ça recircule ensuite pour le plus grand nombre.
Est-ce que vous avez mentionné ça pour le lecteur, pour l'usager, pour le récepteur, le destinataire de ces images, Lise Lotmas, pour qu'il sache que ça a été fait régulièrement, que ça a été, que l'origine est éthique, et y compris jusqu'à l'encadrement des gens qui ont travaillé dessus?
Non, pas forcément. Enfin, on va pas dans nos enquêtes vidéo, dans les articles qu'on va publier, faire tout un descriptif de la façon.
Savoir, oui.
Oui, on va pas décrire la façon dont on a travaillé dans telle ou telle condition. Par contre, ce à quoi on est vraiment très attaché, c'est d'être très transparent sur la façon dont on a enquêté techniquement, pour que le lecteur puisse vérifier par lui-même notre travail.
Esprit de justice, Antoine Garapon.
Esprit de justice qui continue de réfléchir sur le rapport entre les émotions professionnelles et les enquêteurs et toutes les personnes des ONG ou des journaux, voire des enquêteurs qui sont confrontés à des situations de violence, des situations voire d'extrême violence, en compagnie d'un psychologue, Guillaume Wavelet, et d'une journaliste au Monde de l'enquête du service vidéo, des enquêtes vidéo, Lislotte Mass, qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de The Cure, Boys Don't Cry, Lislotte Mass.
Oui, c'est un clin d'œil à...
Un garçon, ça pleure pas.
Un garçon, ça pleure pas, voilà. Ou un journaliste, ça pleure pas. Ou un enquêteur aux ça pleure pas. C'est une idée à laquelle j'ai pu être confrontée au début de ma carrière et qui, je pense, est sur une pente descendante désormais. Et c'est une très bonne chose. Cette figure un petit peu du... On pourrait avoir ce cliché en tête du reporter de guerre qui ne ressent plus rien, qui est détaché de ce qu'il vit et qui va parfois pouvoir dire des choses de, ah, mais cette vidéo atroce, moi j'ai vu tellement pire,
c'est ça,
que... Il y a un côté un peu invalidant comme ça qu'il y a pu avoir dans certains discours. Et je pense que on parle maintenant beaucoup plus facilement entre nous, entre journalistes, des thématiques de la santé mentale, des images sur lesquelles on travaille. On va aussi pouvoir échanger sur la meilleure façon qu'à chacun d'appréhender ces images,
chacun
se conseiller,
techniques.
Chacun ses techniques, voilà, chacun ses limites aussi,
oui.
Chacun ses tabous. Et donc maintenant, c'est une discussion qui est beaucoup plus fluide qu'elle n'a pu l'être. Et voilà, je voulais illustrer ça à travers cette chanson.
Oui, chacun ses tabous, ça s'applique particulièrement d'ailleurs aussi en matière de justice. Je pense aux juges d'instruction qui voient beaucoup d'affaires de toute nature. Mais il y a des affaires qui supportent très bien, d'autres qui supportent moins bien. Alors, Guillaume Moivelet, on pourrait dire, ce qui était tout à fait, socialement un peu décrié, il faut s'écouter. Il faut finalement, quand on fait ce genre de travail, il faut s'écouter, Guillaume Moivelet.
Effectivement, il faut s'écouter, il faut s'observer, il faut être attentif à ce qu'on ressent. Et je pense qu'il y a deux leviers d'action qu'on peut mettre en place pour essayer de se protéger de ces contenus violents. D'une part, essayer de diminuer la quantité de stress que ça peut générer, diminuer l'intensité des sensations avec laquelle on a affaire. C'est les exemples que Liselotte citait tout à l'heure à propos de couper le son, de regarder en miniature, essayer vraiment de minimiser l'impact de cette violence.
Faire un premier visionnage sans son du
tout. Par exemple, faire un premier visionnage sans son ou vraiment regarder en tout petit, faire un peu en accéléré, pas regarder tout d'un coup, etc. pour essayer vraiment de réduire au minimum la quantité de violence en quelque sorte à laquelle on est confronté. Et puis le deuxième pilier, ça serait à l'inverse de déployer au maximum ses capacités à penser, à symboliser. Parce que c'est ça qui est mis à mal quand on est face à la violence.
On n'arrive plus à symboliser.
On n'arrive plus à se représenter ce qui se passe. On est comme sidéré. La violence envahit notre esprit, notre appareil psychique et on ne pense plus. On est comme face à un blanc de la pensée.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se construit véritablement en miroir avec ce qui se passe dans la tête de la victime. Ce que disent toutes les victimes, c'est quand il se passe quelque chose, on ne comprend pas, on est sidéré, on est paralysé.
Effectivement, parce que c'est le mécanisme de défense qui se met en place en fait, pour nous protéger de cette effraction qu'on appelait comme ça tout à l'heure. L'esprit, en fait, court-circuit en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle les phénomènes de dissociation.
C'est ce qui peut causer les... celui qui regarde les images.
Et ça peut affecter aussi celui qui regarde les images parce qu'il y a quand même cette même charge de violence. Et pour s'en protéger, donc, soit diminuer l'intensité de ce à quoi on est confronté, soit muscler en quelque sorte sa capacité à penser. Et pour ça, on doit recourir au collectif finalement. On doit s'écouter, mais on doit aussi partager avec les autres.
C'est ça, partager avec les autres, ce qui est un effet de réalité parce que le réel, c'est ce qui est communément partagé. J'ai été frappé aussi, Liselotte Mas, dans les recommandations qui sont données, c'est qu'il faut séparer les lieux. Il faut séparer les lieux. Ça vous parle, manifestement.
Oui, oui, et en discutant avec mes confrères et collègues, c'est un sentiment qui est assez partagé et c'est une technique, on va dire, qui est assez commune parmi nous. C'est-à-dire que quand on va travailler sur un sujet avec des vidéos particulièrement violentes, on va... dans la mesure du possible, éviter d'être en télétravail, par exemple.
Oui.
Et éviter de travailler et d'ausculter ces images dans le domicile privé. Et voilà, on est quasiment tous parisiens, on habite souvent dans des petits appartements ou des petits lieux. Parfois, on travaille dans le salon, dans la chambre, on n'a pas forcément un espace dédié à domicile pour effectuer cette séparation entre le monde professionnel et le monde privé. Et donc, voilà, en discutant avec mes collègues, et c'est le cas pour moi aussi, on essaye le plus possible de créer ce sas.
C'est ça.
De séparation entre le travail et la vie privée.
Alors, il est recommandé aussi, ça m'a surpris, mais dans le fond, on comprend bien, que quand on est en télétravail, il faut se changer d'habit. Quand on regarde ça, pour se signifier à soi-même qu'on est au boulot, on s'habille comme pour aller travailler, Liselotte Mas.
Oui, ça peut être une technique. En l'occurrence... quand on s'envoie aussi entre collègues les images, voilà, il y a ce message d'avertissement. On dit à l'autre, prépare-toi. Peut-être que avant de regarder une vidéo violente, je vais, faire un peu du tri dans mes onglets sur mon navigateur, la mettre en petit, la télécharger avant de la visionner. Par exemple, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Au lieu d'utiliser le lecteur de vidéo intégré dans YouTube, dans Twitter, dans d'autres réseaux sociaux. Parce que c'est assez difficile de contrôler précisément les moments où on peut faire pause, les moments où on peut passer. Je vais télécharger la vidéo sur mon ordinateur, la lire sur un lecteur plus précis, réduire la taille. Et voilà, toutes ces techniques-là, c'est des choses qu'on acquiert non seulement grâce aux guides qui sont publiés par les différentes ONG comme Bellicat, mais aussi à travers l'expérience, puisque voilà, ça fait des années que je fais ça et je sais maintenant quels sont mes petits trucs et astuces pour me protéger un maximum.
Comme si Guillaume Wavelet, on allait retrouver la maîtrise d'une scène qui est par définition extérieure, mais par l'instrument, on retrouve la maîtrise.
Effectivement, il y a des échos que je retrouve avec moi, ma pratique de psychologue auprès des patients traumatisés, où on va finalement mettre en place le même genre de stratégie. Y aller doucement, trouver son rythme, et puis être dans cette co-construction, savoir mettre des silences là où il en faut, savoir ne pas aborder tout de suite. Et finalement, en fait, les journalistes qui s'approprient ces contenus violents font un petit peu la même chose entre trouvant ce bon rythme-là.
Se trouver ce bon rythme et ne pas mélanger les choses, y compris dans sa tête. Il y a cette recommandation qui est bon sens. Ils disent, quand vous écoutez, quand vous regardez des choses horribles, n'écoutez pas une musique que vous aimez, n'écoutez pas une musique pour vous rassurer, parce que, en fait, vous allez contaminer cette musique qui ensuite va vous rappeler les images, Liselotte Mass.
Oui, alors moi c'est une technique que j'utilise pas du tout, mais je connais certaines personnes qui, pour ne pas prendre la vidéo telle qu'elle en pleine face, vont mettre un fond sonore par-dessus. Donc mettre une sorte de tapis musical en plus de la vidéo. Moi c'est quelque chose que je fais pas, mais c'est effectivement un risque que... Enfin, la chose que vous avez lu, je l'ai lu aussi. Voilà, il y a ce risque d'associer plus tard la musique qu'on a écoutée avec la vidéo violente qu'on a visionnée en même temps. Ça. Donc ça peut être à double tranchant.
Est-ce que vous disiez, Guillaume Wavelet, que regarder des images, c'est produire des images. Ces deux opérations sont indissociables. Et finalement, on parle des images horribles, comme des corps mutilés. Bon. Mais il y a aussi d'autres images qui ne sont pas horribles en elles-mêmes, mais qui évoquent quelque chose de terrible, comme des objets, un nounours d'enfance sur une scène de crime, où on imagine, pour le coup, ce qui a pu se passer, et c'est aussi terrible que de la voir.
Effectivement, parfois, être confronté à des images terribles, c'est effectivement très difficile, mais imaginer la suite peut presque être encore pire, finalement. Et n'avoir accès qu'à un petit film de quelques secondes et pas savoir ce qui va se passer ensuite, par exemple, peut aussi être extrêmement difficile. Et avoir des images comme ça vont pas être effractantes ou traumatogènes ou difficiles en elles-mêmes, mais effectivement par les autres images mentales qu'on va se créer à l'intérieur. Ça, c'est très difficile, en effet.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Guillaume Wavelet, mais que je me posais en lisant, c'était, mais est-ce qu'il n'y a pas, à l'inverse, une fascination pour les images horribles?
Tout à fait. Je pense qu'il y a une fascination qui est assez naturel, c'est un petit peu le même phénomène aussi bien connu quand il y a un accident sur l'autoroute, on a la file des voitures qui ralentit et qui est comme ça attirée par cette violence. C'est un sujet effectivement, je pense, très difficile. Il faut se demander qu'est-ce qu'il peut y avoir de fascinant là-dedans, qu'est-ce qu'il peut y avoir de fascinant dans cette extrême violence. Je pense qu'il y a quelque chose autour de justement une image qui vient représenter ce qui en temps normal n'est pas représentable, qui vient mettre du contenu, de la chair, de la réalité là où normalement ça devrait être impensable.
Et où le lieu du fantasme.
Et qui est effectivement aussi le lieu du fantasme et le lieu de la transgression d'un tabou. Qui est à la fois extrêmement dangereux, mais à la fois aussi sacré, à la fois attirant. Et puis peut-être aussi des fantasmes d'agressivité qu'on a tous et toutes. Parfois on a des envies de meurtre, mais habituellement ça reste bien au chaud, là où il faut, tout dans notre inconscient. Et là soudainement, ça fait retour dans la réalité de la scène qu'on est en train de voir. Et ça crée quelque chose d'extrêmement difficile, d'extrêmement culpabilisant, mais aussi de fascinant. Et ce qui est fascinant aussi dans les images de violence, c'est que elles peuvent créer une espèce de boucle de répétition où on a été comme ça ébranlé par une image, et puis du coup on a besoin d'une autre image pour essayer de comprendre la première. Et puis il y a quelque chose qui peut se répéter comme ça. La répétition, c'est vraiment un symptôme traumatique. C'est un peu le même phénomène que les personnes qui vont avoir des cauchemars ou des réviviscences où cette même image se réimpose à leur esprit parce qu'elles ont besoin de l'élaborer. Et ça peut entrer aussi en jeu quand on, sans savoir pourquoi, on se retrouve retrouve attiré par ces images. Juste un tout petit exemple pour illustrer ça. J'ai une de mes patientes qui a subi une scène extrêmement violente. Elle a été confrontée à la vision de corps complètement ensanglantés. Elle-même a failli mourir. Et puis elle s'interrogeait sur le fait de, quelques mois après, avoir ressenti le besoin de regarder plein de films gore et plein d'images d'horreur, et elle se demandait mais pourquoi je trouve un plaisir à regarder des films gore alors que j'ai vécu ça. Et ben peut-être que justement c'est une tentative aussi de se réapproprier ces images.
C'est ça. Retrouver une maîtrise sur les images, ça vous parle, Liselotte Mas?
Peut-être moins, j'avoue, dans le sens où après peut-être que voilà, il y a un niveau de dans l'inconscient qu'on maîtrise pas forcément, mais sur le côté fascinant de ces images, moi ce qui me fascine au travail, on va dire, c'est que presque d'un point de vue d'historien, on a à disposition une profusion de preuves de crimes.
Incroyable.
Il y a encore quelques dizaines d'années, c'était impensable d'avoir accès à un tel niveau d'information. Et nous, notre travail, c'est de pouvoir traiter justement toutes ces preuves. Et voilà, il y a toutes ces personnes dans le monde entier qui prennent parfois des risques impensables pour filmer ces choses-là, pour les faire savoir au monde. Et notre travail, c'est de transformer ce risque qu'ils ont pris en quelque chose de concret et de visible pour le public français, en l'occurrence, quand on...
Ce risque vous oblige?
Un peu, oui.
C'est ça. Et parce que vous dites, c'est des gens qui ont risqué leur vie pour prendre ces photos, et peut-être parfois, dans le cas de la série, l'ont payé de leur vie, parfois l'ont payé de leur vie pendant qu'ils étaient en train de tourner ces photos. Alors, il y a une catégorie de photos dont on n'a pas parlé, et qui est plus reposante, mais essentielle, Liselotte Mas, sont les photos aérosatellitaires.
Oui, les images satellites, c'est vrai que c'est devenu un outil central dans notre travail de journaliste, non seulement parce qu'on les utilise dans le processus de géolocalisation que j'ai décrit en début d'émission, mais aussi pour analyser ces zones de conflit, ces zones où des violences sont perpétrées de loin, d'en haut, avec un regard peut-être plus éloigné, pour quantifier souvent ou mesurer l'ampleur de destruction, de dégâts.
Mais ça, vous parlez de Gaza, là. C'est-à-dire que, est-ce qu'à Gaza, il a été, finalement, l'interdiction des journalistes au théâtre d'opération a pu être complètement compensée par cette technique, Liselotte Mas?
Non, ça n'a pas pu être compensé complètement. Par contre, on a fait avec les moyens du bord pour documenter ce qui s'y passait avec ce qu'on pouvait, c'est-à-dire ces images satellites qui montraient l'ampleur des destructions. On a pu mesurer, par exemple, le nombre de bâtiments détruits ou ce genre de choses. Et bien sûr, tous les Gazaouis qui ont filmé leur quotidien, qui permettaient de documenter un certain nombre de violences. De la même manière que dans plein de pays où il y a des conflits, des guerres civiles, ce sont souvent ces vidéos-là qui nous parviennent et qui nous permettent de documenter ce qui se passe.
Mais ça veut dire que ce vertige que vous éprouvez, mais qu'éprouve beaucoup de monde devant Internet, vertige de l'abondance des preuves, vous oblige à faire des choix aussi, Liselotte.
Oui, c'est un peu ça le point sensible ou le point difficile, c'est qu'effectivement, on ne peut pas tout faire. On n'est pas assez nombreux, il n'y a pas assez d'enquêteurs aux INT pour traiter, vérifier, authentifier toutes les images qui nous parviennent. Et donc, parfois, oui, on peut se retrouver dans des dynamiques où on voudrait tout faire, on croule sous le travail. Et donc, ces choix sont assez difficiles à vivre parfois.
Guillaume Ouavelet, vertige de toutes ces images. Vertige aussi devant tous les gens traumatisés de guerre. Et on a parlé du traumatisme secondaire, mais il y a aussi le traumatisme premier. La tâche est immense aussi dans ce domaine-là.
Effectivement, la tâche est immense et là aussi il y a quelque chose de vraiment vertigineux là-dedans. Et ça renvoie encore une fois à cette question d'impuissance, à cette question de moi en tant qu'individu seul, je peux pas faire grand-chose, mais... qu'est-ce que je vais faire de ces rencontres avec les patients traumatisés, de ces images, et comment je peux m'inscrire à mon petit niveau individuel dans quelque chose de plus grand et de collectif?
Ma question est très naïve peut-être, Guillaume Ouavelet, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas aussi une nouvelle culture à instaurer entre nous, entre personnes? On parlait des collègues, mais on parle aussi ces gens traumatisés, nous côtoient, on les côtoie tous les jours dans le métro. Est-ce qu'il n'y a pas une attention à avoir? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de thérapie collective à se vouer les uns aux autres?
Certainement, je pense qu'il y a quelque chose à créer autour de d'une autre atmosphère peut-être, d'un climat d'humanité justement dans notre vie réelle et aussi sur la vie numérique, enfin dans le monde numérique aussi.
Alors un dernier mot à vous, Liselotte Masse, l'avenir de Lozine. Qu'est-ce que vous disiez, il n'y a pas assez d'équipe pour l'ampleur de la tâche. Comment vous voyez le l'avenir en 15 secondes?
J'espère tout simplement que de nombreux autres journalistes et enquêteurs vont rejoindre nos rangs, si j'ose dire. Et c'est vrai que voilà, j'espère que les écoles de journalisme vont se saisir de cette thématique, que de plus en plus de gens vont se former aux techniques d'enquête en source ouverte. Open Facto, c'est l'une de ses raisons d'être. Donc si vous souhaitez être formé, rejoignez-nous.
Vous aurez toutes les indications sur notre site. Merci beaucoup, Liselotte Masse, Guillaume Wavelet. Esprit de justice est terminé ce soir. À la technique, il y avait Marie-Claire Oumabadi, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Laurence Genepin, une émission d'Antoine Garapon.